Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois qu'on se retrouve dans votre village vosgien. Je sais pas, c'est trois ou quatre, je sais pas. Bon, personne ne sait non plus, donc ça, il y a eu un impact formidable dans nos précédentes visites. C'est formidable. Troisième ? Quatrième. C'est un test pour savoir si mon épouse avait bien suivi. Je crois que c'est bien. Donc, voilà. On est heureux de vous retrouver. Puis surtout, vous savez, quand on vient, on demande, on peut ou bien obéir à des programmes. Hein, par exemple, je sais que dans quelques semaines, c'est le dimanche de l'église persécutée, il y a le dimanche de la lutte contre la lèpre, ou bien... Hein, là, on peut obéir à un programme, ça peut être bien aussi. Mais le mieux, en général, c'est de laisser le Seigneur nous conduire. Je dis au Seigneur, qu'est-ce que tu as pour cette église? Qu'est-ce que tu as pour moi aussi? Parce qu'on ne peut pas apporter quelque chose aux autres si ce n'est pas avant tout pour nous-mêmes. Bon, sinon, on se fait une transmission, ça devient ce qu'on appelle une prédication. C'est un prédicateur. Prêcher, vous savez, c'est un petit peu maintenant, un petit peu solennel. On prêche. Mais on prêche une parole qui pourrait être très bien lue sans qu'on soit là. Et ce qui compte, c'est d'apporter aux autres ce qu'on a reçu, nous, ce qui nous touche, ce qui nous transforme, ce qui nous pose peut-être problème. Comme ça, on reste dans quelque chose de vrai, de vivant, et puis qui concerne notre marche personnelle avec Dieu. Alors, je voudrais prendre avec vous d'abord un petit verset que tout le monde connaît dans Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On peut même prendre aussi le verset 31 et 32. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez que ce que dit le Seigneur dans sa parole, vous avez marqué à quel temps de conjugaison ces verbes sont utilisés? Oui. Puis en même temps, c'est l'impératif. C'est l'impératif. Alors Dieu ne donne pas de conseils. Il donne des ordres. C'est embêtant, hein? Mais c'est des ordres d'amour. Il y a, je crois, un seul passage dans le Nouveau Testament où le Seigneur ne donne pas d'ordre. Il dit qu'il conseille. C'est à certaines personnes qui disent « Je te conseille ». C'est à qui il dit ça? C'est un terme qui est très rare, hein, dans le Nouveau Testament. « Je te conseille ». Dans notre vie moderne, on conseille beaucoup. Vous savez, les hommes politiques, ils ont conseillé à tout le monde. Mais c'est une des rares fois où le Seigneur dit « Je te conseille ». Ce n'est pas du tout sa façon d'agir. Hein. « Je te conseille d'acheter de moi ». Comment ? Oui. Dans quel passage il dit ça, je te conseille d'acheter de moi ? Ah, c'est très particulier comme phrase. Comment ?
Apocalypse.
Oui. Mais à qui il dit ça ? C'est pas à l'église de Larnay, hein, je vous rassure. C'est une autre.
C'est l'église de... Une des sept églises.
Ah oui, c'est une des sept, oui. Ça c'est très bien. Donc il y en a des sept, donc il y en a six de trop. Mais alors c'est laquelle?
C'est pas Philadelphie.
Non, c'est pas Philadelphie, c'est pas New York non plus. C'est laquelle? C'est une église qui n'est pas recommandable. Qui n'est pas recommandable du tout. Ni recommandable, ni recommandée.
C'est la
Odyssée. C'est la Odyssée, bien sûr. Très bien. Je te conseille d'acheter de moi de l'or et de la myrrhe. Vous savez pourquoi il dit je conseille? Parce qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation à être fidèle dans la parole. C'est un choix du cœur. Hein? C'est un choix. Alors là, il parlait donc du Père Céleste. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et vous savez, je croyais jusqu'à il y a quelques mois que le centre de la pensée de Dieu, de la vision de Dieu, que le centre était l'Église. En fait, pas du tout. Le centre de la pensée de Dieu, de sa vision, c'est le royaume. L'Église est l'instrument privilégié du royaume. Mais le centre de la pensée de Dieu, c'est le royaume. Il est répété à 40, 50, 60 reprises dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu. Et le royaume, il commence là où le Seigneur Jésus règne. Il peut commencer chez vous ce matin, s'il règne dans votre cœur. S'il ne règne pas dans vos cœurs, moi je sais ce que c'est quand il ne règne pas, s'il règne dans votre cœur, tout est bien, le royaume est là. Dans une famille à deux ou trois, si le Seigneur règne, le royaume est là. Il est installé. Dans les secondes qui suivent, il peut repartir aussi vite qu'il est venu. Hein. Et dans l'Église aussi, s'il règne, le royaume est là. Quand le Saint-Esprit règne, s'il est là. Non pas nos pensées personnelles, nos désirs souvent opposés les uns aux autres, mais la volonté de Dieu, là, sa présence de Dieu, ce Saint-Esprit qui n'est jamais divisé. Vous savez, ce qui nous divise, c'est nos choix personnels, nos caractères, nos pensées, cet homme normal, naturel, que le Seigneur a mis à la croix, pour ne plus s'en servir. Et vous savez qu'un des premiers signes de la nouvelle naissance, c'est quoi ? Ben, c'est d'être capable de connaître et de contempler notre cœur naturel. Ça, c'est un premier signe. Hein. Si on le voit, celui des autres, c'est pas difficile. Pas la peine d'être ni chrétien, ni croyant, ni né de nouveau. Celui des autres, on le connaît par cœur, avec leurs qualités et surtout leurs défauts. Et c'est réciproque, hein, attention. Mais le nôtre, c'est... Et alors, quand on parle de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, si on fait le bon choix, le premier, le Seigneur s'occupera de tous les autres. Et dans ce royaume, il y a un petit problème quand même, c'est que dans le royaume, il y a les paroles du royaume. Ça, c'est embêtant. Hein. « Seigneur, ton royaume est magnifique, je me place sous ton autorité, c'est formidable. » Mais dans le royaume, il y a des paroles. Puis si on n'est pas sous l'autorité des paroles de Dieu, bien, on n'est pas dans le royaume. On va prendre peut-être un ou deux petits exemples pour nous parler de la façon, vous savez, on parle souvent de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi ? La foi, c'est merveilleux, hein ? On va voir ce que c'est que la foi. C'est une chose toute simple. Et on va prendre peut-être deux exemples qui nous montrent ce que ça peut être ou ne pas être. Alors d'abord, dans le premier livre des rois, vous savez que le roi Salomon, qui avait très bien commencé sa vie, l'a mal fini. C'est aussi un enseignement pour nous. Il a fini par un désastre. Emporté par son intérêt pour les femmes, il a après basculé complètement dans l'idolâtrie en rétablissant les autels, tous les faux dieux, les Astartés, les Baals, auxquels il a consacré des autels en respect pour les femmes étrangères qu'il avait prises. C'est très important. Et alors, quand Salomon s'est éloigné de Dieu, à la fin de sa vie, il s'est pas repenti ailleurs, on n'en parle pas, eh bien, il y a eu un verdict de l'Éternel sur lui. Sur le royaume d'Israël, qui a été divisé après. Il le dit, hein, là, on le verra tout à l'heure. Il a été divisé, coupé en deux. 10 tribus ont été données à quelqu'un, qui n'était pas un héritier de Salomon, et une tribu par respect, par amour pour son serviteur David, qui malgré ses péchés avait accompli toutes ses volontés, Dieu a laissé la tribu de Juda. Il y avait la tribu de Juda, il y avait Jérusalem. Et l'autre partie, donc c'est le schisme, d'Israël, 10 tribus ont été données non pas à un fils de Salomon, celui qui a hérité de Juda, c'était Roboam. Il y a un serviteur qui s'appelle Jéroboam, qui est un serviteur de Salomon, qui lui a hérité des 10 autres tribus. Et qui a été fait roi de la volonté de l'Éternel en condamnation, en verdict sur l'idolâtrie de Salomon. Dieu est juste dans ses jugements. Et on va prendre donc maintenant que la façon dont Jéroboam a été appelé et a été investi de cette royauté. Et la façon après dont lui s'est comporté en ayant entendu dans l'oreille les paroles du royaume, on va voir. Donc dans un roi, pour ceux qui veulent lire dans la Bible, le premier livre des rois, au chapitre 11, alors c'est juste avant la mort de Salomon, c'est un peu l'histoire de Jéroboam, hein, ce serviteur. Donc premier livre des rois, le chapitre 11, les versets 26 à 32. Jéroboam, aussi serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, éphratien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tseroua. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. » Et cela parce qu'ils m'ont abandonné, se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi, et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi, à Jérusalem, la ville que j'ai choisie, pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. » Voilà ce qu'il dit à Jéroboam, le prophète de Dieu. Quelle joie dans le cœur, puis quel honneur, quel privilège pour ce serviteur, non? Lui qui était en fait un serviteur, qui n'était pas, faisait pas partie de la dynastie, n'était pas fils de Salomon. Il était choisi à travers ce prophète par l'Éternel. C'est extraordinaire. Hein, quel honneur, pour lui ça a dû être une grande joie, il devait être très reconnaissant. Et on va voir maintenant ce qu'il en a fait. Il a reçu la parole du royaume, il l'a reçu, il l'a entendu. Alors au chapitre suivant, au chapitre 12, à partir du verset 25, jusqu'à la fin du chapitre, alors ça y est, Jéroboam est devenu roi d'Israël, il l'est. Dans le chapitre précédent, il a d'abord voulu rendre allégeance, qui était très très bien, rendre allégeance au roi Roboam, qui était le roi légitime. Parce que Dieu fait toujours les choses dans le bon ordre. Jéroboam, quand Salomon est mort, Jéroboam a voulu rendre allégeance au fils Roboam, au fils de Salomon. Et puis il lui dit, écoute, je suis prêt à te servir, mais seulement allons diminuer un petit peu les charges qu'il y avait sur le peuple d'Israël, parce que ton père avait mis une décharge très lourde sur les tribus. Et si tu allèges ces charges, je te servirai toute ma vie, ainsi que tout le reste d'Israël. Roboam, au lieu de consulter des sages, a consulté des jeunes compagnons de sa vie, qui avaient vécu et grandi avec lui. Les sages lui conseillaient de suivre le conseil de Jéroboam, et de diminuer, d'alléger ses charges, et les jeunes lui disent, écoute, non, s'ils font ça, c'est qu'il n'y a pas assez de charges. Au contraire, tu vas augmenter encore les charges sur eux. Tu vas faire peser sur eux encore un fardeau encore plus pesant. Alors, 3 jours après, Jéroboam est revenu, et puis Roboam lui dit, ben non, ce ne sera pas comme ça. Au lieu qu'il y ait des épines, il y aura des scorpions sur vous, comme charges. Donc, c'était vraiment... Alors, Jéroboam dit, à ce moment-là, ben, on te quitte. Israël, à vos tentes, nous partons et nous allons former. La parole de Dieu s'est accomplie. Il avait endurci le cœur de Roboam, mais Dieu passe toujours par ses choix. Si Roboam avait été d'accord, Dieu savait d'avance qu'il allait refuser. Hein. Mais si Roboam était d'accord, eh bien, le royaume n'aurait pas été divisé. Il s'est enfoncé par orgueil, vous savez ça. Avoir la grosse tête, ça existe hein, quand on hérite d'un royaume. Et puis Jéroboam s'est rebellé de manière tout à fait juste en ayant d'abord proposé l'allégeance. Hein. Donc il a fait exactement ce que Dieu lui demandait, alors qu'il avait reçu la promesse. Et là maintenant, il est devenu effectivement le roi d'Israël, de ses 10 tribus. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il sacrifia sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Jéroboam? Vous avez vu ce qu'il est marqué là, au verset 26? Jéroboam dit en son cœur, il s'est consulté lui-même, « Oh, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. » Alors qu'est-ce que l'Éternel lui avait dit? Il lui avait dit « Je te donne distribue. » Il lui avait dit par ce prophète, et en plus, ça s'était réalisé. Mais il lui a dit, Dieu lui a dit, mais il dit en son cœur, mais une autre traduction après, elle dit, il s'est consulté lui-même. Ah, quand on se consulte soi-même, là, c'est toujours très très bien. On est quitte d'être embêté par les autres. Hein. Dit en son cœur, le royaume pourrait bien m'échapper. Alors comme il pourrait m'échapper, il fallait empêcher les tribus de retourner à Juda, de retourner à Jérusalem. Parce que il dit, s'ils vont à Jérusalem, ils vont me trucider. Ils vont me m'ôter la royauté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris la marche naturelle de l'homme. De l'homme, on ne sait pas ce que c'est. La marche naturelle de l'homme, on ne sait pas ce que c'est. C'est notre marche à nous, quand on choisit de ne pas dépendre de celle qui nous a donné. On en est tous capables. Hein, vous savez, la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, il y a une définition littérale de la foi dans Hébreux 11. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Car Dieu, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Vous vous rendez compte qu'il est possible de s'approcher de Dieu sans croire qu'il existe? Il y a un tas de gens qui s'approchent de Dieu puis qui font des récitations sans croire qu'il existe. Hein. Si on fait 4 Notre Père, c'est quand même mieux que 3. Et moins bien que 5. Mais c'est ça, s'approcher de Dieu sans croire qu'il existe. C'est une religion. C'est une tradition, une routine qui peut nous gagner. Qui peut nous gagner si on retrouve cette façon de se comporter. Alors que la foi, c'est quoi? C'est une seule chose. C'est prendre la parole de Dieu au mot, et faire corps avec cette parole. Et souvent, on s'illusionne, vous savez, on est enthousiaste, oh, Seigneur, tu es merveilleux, cette parole est merveilleuse. Merveilleuse. Et après, on passe à autre chose. On dit maintenant, attention, il ne faut pas faire d'angélisme. Hein. Attention, il faut maintenant, nous sommes quand même des chrétiens avec les pieds sur terre. Donc la parole de Dieu est merveilleuse, on l'a apprise par cœur, on la connaît, et maintenant on va s'occuper des choses de la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a deux vies. La vie spirituelle, triomphante, secrète, et que personne ne voit que le Seigneur, puis la vie de tous les jours, où après on reprend le lundi ou le dimanche soir, on reprend le collier, avec la vie naturelle que la nature nous a donnée, comme les autres, et avec notre bon sens, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en servir, avec notre bon sens, avec nos pensées. Et on oublie que la parole de Dieu n'a qu'un seul intérêt, c'est d'être appliqué. Appliqué, c'est tout. J'ai un exemple, je crois que je l'avais déjà donné une fois, mais je vais vous redonner parce que c'est quelque chose. Vous savez, c'est les choses pratiques qui nous aident. Alors, nous sommes partis avec mon épouse de la société des Gédéons. Vous connaissez les Gédéons? C'est une association qui est merveilleuse, d'abord, qui est la première distributrice au monde de la Bible. Depuis plus de 100 ans, on a distribué 1,5 milliard. C'est un honneur et un privilège pour nous de le faire. Et tous les ans, nous avons un congrès avec les Gédéons. Vous savez, les Gédéons, c'est un petit peu une société qui a une architecture un peu à l'américaine. Les Américains sont des gens très pragmatiques, hein, qui ont le sens de l'efficacité et qui savent très très bien organiser les choses. Humainement, c'est parfait. Alors, ces congrès ont pour but principal de récolter des fonds pour les écritures. Et des fonds qui sont récoltés avec honnêteté. Tout ce qui est récolté jusqu'au dernier centime sert à l'impression de nouvelles écritures, des Bibles. Alors le gros problème dans ces congrès, c'est qu'on demande bien sûr aux Gédéons présents de participer. On sait d'avance qu'on va devoir aborder des sous. Donc si on n'a pas beaucoup, on ne va pas au congrès. Alors mais si on a, on y va. Et puis alors le soir, à côté de l'assiette, on met une enveloppe. L'enveloppe, on sait très bien qu'il faudra mettre des sous dedans. Et alors à un congrès, on l'a fait On a fait un congrès à Montbéliard il y a quelques années. Et l'année précédente, ce congrès avait lieu dans une autre ville. Et c'était le 50e anniversaire de l'installation des Gédéons en France. Alors on fait toujours, avant le congrès, un objectif de récolte de dons pour l'achat des écritures et pour l'impression des écritures. Alors comme c'était la 50e année, les frères avaient dit, bah, tiens, on va prendre comme objectif 50 000 petits bleus. Un petit bleu, vous savez, c'est le petit bleu Gédéon, là, qui correspond à 1 euro. On ne dit pas 1 euro, on dit 50 000 petits bleus, mais c'est la même chose. Alors l'objectif était de récolter 50 000 euros pour ces 50 ans de Gédéon, de congrès Gédéon. Alors le premier soir, on avait notre enveloppe, on a mis ce qu'on avait à cœur de mettre. Alors ce qui est embêtant, c'est que le deuxième soir, il y avait une deuxième enveloppe. Bon. C'est qu'entre-temps, les frères, dans la nuit, avaient calculé les sous, et puis on n'arrivait pas aux 50 000. Donc il fallait mettre une deuxième enveloppe. Embêtant. Ouais. Et troisième, il y avait une troisième enveloppe. On s'est dit, c'est un petit peu beaucoup quand même. D'autant plus que le verset qu'avaient reçu ses frères Gédéon, on a tous, à chaque congrès, il y a un verset thème, un thème. C'était merveilleux, c'était ce verset de Jacques qui dit « Ne vous contentez pas d'écouter la parole, mais... » Non ? Mettez-la en pratique. Ouais. Hein, il va le lire ensemble, parce qu'il est encore précis. On va voir ensemble dans Jacques 1. Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Mettez la parole en pratique. Alors c'était le verset de ce congrès. C'est extraordinaire. Alors que dans Actes G, le Seigneur dit, dans Actes G 6, le verset 8, le Seigneur dit, tout l'or et l'argent m'appartiennent. Ah. Donc en général, c'est quand même mieux d'aller à la banque qu'aux succursales. Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Est-ce que vous savez quel est le mot le plus important de ce verset? C'est « ah oui, c'est sûr ». Comment?
«
Mais oui, c'est le « et ». C'est le plus petit mot et le plus important. Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas d'écouter seulement. Alors nos frères, alors au troisième soir, le congrès n'était pas trop là, à la fin du congrès, au lieu d'avoir 50 000 euros, ils en avaient 40 000. Ils n'ont pas été exaucés. Mais ce qui est un petit peu embêtant quand même, c'est qu'on peut se tromper, on a le droit, et ça m'arrive, mais on a le droit aussi de le reconnaître. De dire, écoute Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? On avait à cœur de recevoir, de récolter 50 000, on en a 40. On peut dire, écoute Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais non, il n'y a pas eu de remise en cause. C'est ça, ça nous apprend que le fait de se tromper n'est jamais grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas le reconnaître. Il y a un chef d'entreprise qui s'appelle Jean-Luc Lagardère, je ne sais pas s'il est chrétien, il a dit une parole qui m'a beaucoup touché. Il a dit, on lui a dit, comment se fait-il que vous ayez si bien réussi dans la vie? Il dit, je me suis souvent trompé, souvent, mais jamais deux fois pour le même motif. Ah. Alors que, vous rendez compte, jamais deux fois. Voilà pourquoi il a réussi. Ça demande de l'humilité, le fait de reconnaître ses fautes. Non? Il y avait un autre contemporain, un autre chef d'entreprise, qui était surtout un grand nom de la liste, qui s'appelait Jean-Jacques Révan-Schreiber. Vous avez peut-être entendu parler, il était ministre, Jean-Jacques Révan-Schreiber, qui était un homme d'action extraordinaire. Et quand il est mort, tout le monde disait que c'était un homme formidable, il faisait bon à son côté parce qu'il avait un dynamisme, il avait une énergie, il avait une vitalité extraordinaire. Il n'avait qu'un seul défaut, qu'il a gardé toute sa vie. Il ne se remettait jamais en cause. Alors ce qui fait qu'il n'a pas pu comprendre, il a vécu avec des gens à côté de lui, sa famille, pendant 30 ou 40 ans, et il est mort sans avoir compris ce que pouvaient penser ses proches. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Alors donc nos frères, là, non. On pensait que les chrétiens étaient un petit peu radins. Donc au lieu d'avoir 50 000, il y avait 40 000. Alors l'année suivante, c'était notre congrès à Montbéliard. On s'est dit, on ne va peut-être pas faire la même chose. Puisque la parole nous dit, la parole du royaume, que la foi, c'est de mettre en application au mot ce que Dieu dit. Au mot. Au mot. Actes 6, verset 8, tout l'or et l'argent m'appartiennent. Alors on s'est dit, on était tous unanimes, tous. Si l'un ou deux n'avaient pas été, on n'aurait pas pu continuer. On était unanimes pour dire, écoutez, maintenant, on ne va pas faire comme ça. On a eu des problèmes avec les dirigeants du congrès, parce qu'ils étaient habitués à voir ces enveloppes qu'on mettait. On dit, écoutez, non, nous, on n'aura pas d'enveloppe. On n'en mettra pas. On n'a pas mis d'enveloppe, et c'était vraiment à un moment donné assez difficile d'imposer notre volonté. On a mis une urne, c'était un petit tonneau, on a mis une urne dans la pièce en disant, le premier jour, que ceux qui ont à cœur de donner, donnent. Tout le monde est très surpris. Puis on a appris après qu'il y avait des frères et des sœurs qui avaient prié pendant tout le congrès pour qu'on ne se casse pas la figure. On a mis notre enveloppe, notre urne, notre petit tonneau. Et à la fin du congrès, on a fait les comptes. Notre objectif qui avait été déclaré était de 32 000 petits bleus, 32 000 euros, on avait 40 000 euros. Uniquement quoi ? Par héroïsme ? Mais pas du tout. En mettant Dieu au défi d'être vrai dans ce qu'il dit de lui-même. Vous savez, souvent dans nos églises chrétiennes, on a dans nos boîtes aux lettres des sollicitations incessantes pour donner des sous à droite et à gauche, pour des choses tout à fait honorables d'ailleurs. Mais quel déshonneur ! Déshonneur. On fait des collectes comme ça, on les reprend pour aider le Seigneur à ne pas faire faillite. Seigneur, si on ne le fait pas, tu vas faire faillite, mais on aura tout fait pour t'aider. Vous rendez compte ? C'est ça ? C'est ça ? Ça s'appelle simplement d'une seule phrase. Ça s'appelle des vies naturelles christianisées. N'oublions jamais ça. Des vies naturelles christianisées. Alors ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. C'est le royaume des hommes qui veut tenter de rendre service au royaume de Dieu. Deux valent mieux qu'un, non ? Non, si on peut lui rendre service, on est quand même là pour ça. Et Dieu n'appelle pas. Vous savez que Dieu ne nous demande jamais de le servir. Jamais. Contrairement à ce qu'on pense. Jamais. Il nous demande de le suivre. Et c'est en le suivant qu'on lui rend service. Sinon, on fait des choses qui nous paraissent bonnes pour lui. Seigneur, ça me paraît bien pour toi. S'il est d'accord, c'est bien. S'il n'est pas d'accord, c'est bien aussi. On fait des choses pour lui. Des choses pour le Seigneur. Et le Seigneur ne nous demande jamais de faire des choses pour lui. Il nous demande de faire des choses que lui a préparées. La parole est claire, elle le dit. Dans Éphésiens 2, de rentrer dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Il les a préparées. J'entendais récemment à un congrès à Chalon-sur-Saône une dame qui paraissait très humble et qui disait, elle parlait de ces grands prédicateurs, vous savez, dont on a entendu parler, Charles Spurgeon, George Muller, Moody, Hudson Taylor, ces grands missionnaires qui ont marché par la foi, qui ne faisaient jamais aucune sollicitation, sauf à Dieu, et qui ont marché par la foi. Ils disaient en nous, vous savez, on n'est pas comme eux, on n'est pas des super spirituels. C'est bien, hein ? C'est une fausse humilité. Les super spirituels n'existent pas. Ils n'existent pas. Il y a simplement les chrétiens qui mettent en application la parole telle qu'elle est à 100% ou qui ne la mettent pas en application. C'est tout. C'est tout. Alors qu'il y a la parole, quiconque demande reçoit. Quand vous demandez, vous allez recevoir. Peut-être pas ce que vous pensiez. Dieu a peut-être des pensées différentes que nous, il en a le droit. Mais vous aurez une réponse. Seigneur, t'as dit ça. Quiconque demande, reçoit. Il y a deux solutions, on peut ne pas recevoir. Si on s'approche de lui sans croire que Dieu existe. On ne peut pas recevoir parce qu'on n'a rien demandé. Ou alors si on est dans un péché qui nous empêche de Dieu de répondre. Mais sinon, même si on est dans le péché, si on est honnête, le Seigneur montrera que ce péché l'empêche de donner la réponse qu'on souhaiterait. Mais quiconque demande, reçoit. On a analysé souvent ces versets, il n'y a pas analysé. Il y a pas dans la lettre, comme c'est marqué. Quiconque demande, reçoit. Alors ce Jéroboam, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il s'est consulté, lui, puis il a construit son royaume en disant on va essayer de retenir ces tribus, de les empêcher de retourner à Jérusalem, parce qu'après ils vont quitter. Alors que Dieu lui avait dit qu'il lui donnait ce royaume. Vous voyez ? La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Et le mettre en application immédiatement et totalement. Sans réflexion. Tu vois, tu as parlé tout à l'heure de ces enfants. Que Seigneur Jésus voulait bénir. Les enfants, ils croient ce qu'on leur dit. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 11, si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme un enfant, vous n'y entrerez pas. Parce que recevoir le royaume de Dieu avec nos pensées d'hommes, d'adultes mûrs, est irrecevable. Irrecevable. La vie nouvelle est une folie. Si ce n'est pas une folie, ce n'est pas une vie nouvelle. Ce n'est pas une vie nouvelle. C'est une vie qui est affranchie du bon sens. Il dit maintenant, suis-moi. Suis-moi. Une seule chose est nécessaire. De qui il a dit ça? Une seule chose est nécessaire. Qui est-ce qui a fait ce choix-là? De cette seule chose qui est nécessaire? C'est Marie. Marthe était en train de s'activer pour toute chose. Elle faisait la cuisine, elle remplissait les fours, les micro-ondes, alors que l'autre était assis à écouter la parole de Dieu. Comme il était paresseuse, pas du tout. Marthe avait reçu un notable. Elle le reprenait d'ailleurs. Hein. Marie avait reçu son Dieu. Elle écoutait sa parole. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée. C'est d'écouter sa parole et puis la mettre en pratique. Comme le Seigneur le dit dans Matthieu 11, 28, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Nous, vous savez, on fait le contraire. Seigneur, donne-moi tes instructions et je prendrai ton joug s'il y a affinité. Sinon, tu quitteras bons amis. Et non, Dieu ne répond jamais à ça. Mais il est honoré, vous savez, quand on prend sa parole à la lettre. Les super spirituels, c'est ça. Il peut avoir des itinéraires différents, comme il en a eu pour George Muller, pour Hudson Taylor, pour Billy Graham, je ne sais pas. Ça, c'est son affaire. Mais son affaire et la nôtre, c'est de nous faire entrer dans l'itinéraire qu'il a pour nous. Il a un plan pour chacune de nos vies. Pour chacune de vos vies, il a un plan précis. Que le voisin ne pourra pas faire à votre place. Ça peut être un plan tout simple, tout secret. Il y a des sœurs qui ont prié toute leur vie pour des grands prédicateurs, et je crois qu'au ciel, on aura des surprises. Quand Moody, vous avez peut-être entendu parler de Moody, ce grand prédicateur américain, Moody était venu en Angleterre faire des messages, donner des messages, dans l'église de Spurgeon. Et il y avait des centaines de personnes qui étaient là, et lui donnait son message. Et il y avait sous l'estrade où il était, il y avait une trentaine de sœurs, en dessous, qui priaient pendant qu'il donnait son message et avant. Et Moody, à la fin, les a remerciés. Il a dit, écoutez, c'est bien d'avoir prié pour l'auditoire. L'auditoire était attentif. C'est très bien d'avoir prié pour cet auditoire. Les sœurs lui ont dit, mais on n'a pas du tout prié pour l'auditoire. On a prié pour toi, pour que tu sois l'instrument que Dieu voulait. Mais je crois qu'au ciel, on aura vraiment des surprises. Il y a des sœurs dont seul le Seigneur connaît la fidélité et la vie qui seront peut-être devant nous, qui seront sûrement devant moi. Vous voyez comme quoi nos critères humains ne sont pas assez. Il y a des figures de proue que Dieu choisit, comme Moody, Spurgeon, Son Taylor, Charleston, c'est des figures de proue. Ce ne sont pas des héros, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe devant. Mais derrière, il y a des milliers de prières qui sont exaucées, et qui sont la vraie royauté. Alors il suffit d'entrer dans ce royaume personnel. Dans ce royaume, il y a un duché que le Seigneur a pour chacun de vous. Un itinéraire précis, et s'il n'était pas accompli, quelle frustration à la fin de notre vie de ne pas y être rentré. Tu vois, Seigneur, le Seigneur pardonnera toujours si on le reconnaît. Mais son désir, c'est qu'on entre pleinement dans ce plan qu'il a pour notre vie. Ce plan parfait. Il connaît nos cœurs, il connaît vos possibilités, il connaît les capacités qu'il vous a données ou qu'il ne vous a pas données. C'est avec celle-là qu'il faut obéir et le suivre. Dans tous les domaines. Le domaine professionnel, sentimental, il a tout prévu. Tout prévu. Il suffit simplement qu'on prenne son joug. Et vous savez, le joug, c'est quelque chose qui est assez particulier, hein, qui est contraignant. En général, quand on met le joug sur des bœufs, on ne le fait plus maintenant, parce que c'est la mécanisation a tout changé. Mais dans les pays encore émergents, ça se fait encore couramment. On met le joug sur le bœuf et l'autre sur l'autre bœuf. C'est un joug très, très, très étroit, en bois. On ne demande pas leur avis, mais c'est un joug contraignant. Alors que pour nous, le Seigneur nous demande l'autorisation. Prenez mon joug sur vous. Ce n'est pas tout à fait logique, ça. Le joug, on le met sur la bête, qu'elle soit d'accord ou qu'elle ne soit pas. Il dit, prends mon joug. C'est cru, parce que c'est pas logique. C'est facultatif. L'autorité du roi du royaume, elle est facultative. Prenez compte. Il donne des ordres facultatifs pour que nous n'ayons aucune excuse si ces ordres ne sont pas pris. Voilà ce que c'est qu'obéir à la parole. Choisissez en premier le royaume de Dieu et sa justice. Dans le royaume, il y a des paroles. Si ces paroles règnent sur mon cœur, je suis dans la victoire de la foi. Et tu vois, on est tous surpris de voir que Dieu accomplit. On est surpris de voir qu'il accomplit ce qu'il disait. L'or et l'argent m'appartiennent. Il a répondu, au-delà de ce qu'on pensait. Et le frère qui hésitait à nous donner le congrès parce qu'on n'appliquait pas le système de récolte, il nous dit après c'est le congrès le plus béni que j'ai jamais eu. Il s'est remis en cause. J'ai gardé les mails. Il s'est remis en cause. Oui. Comme quoi. Dieu ne demande pas qu'on comprenne sa parole. Il demande qu'on l'applique. Qu'on l'applique directement. Ne vous inquiétez de rien. Si on reste inquiet, on n'a pas appliqué sa parole. Mais faites connaître, non pas aux voisins, mais à Dieu, au besoin. Et après, vous savez, si on est honnête, puis si on reste inquiet, on peut dire au Seigneur, tu sais, ça fait 3 fois que je te remets ce problème, il revient. Aide-moi. Aide-moi. Puis il nous demande d'être honnête et vrai. Déchargez-vous sur lui de tout souci. Il ne demande pas que de porter avec nous les fardeaux, il demande de nous décharger sur lui. Autrement, on vit avec nos soucis. Et si on vit avec nos soucis, on n'est plus d'aucune utilité pour les autres. On est déjà rempli d'inquiétude, de soucis, on n'est plus disponible. Non ? On dit, comment je vais faire pour m'en sortir ? L'autre nous parle, on entend, et puis ça ressort immédiatement de l'autre côté de l'oreille. Mais pour être disponible, il faut être déjà déchargé. Il faut appliquer la parole de Dieu. Il y a ce deuxième exemple qu'on avait cité tout à l'heure. Vous savez, le peuple d'Israël devait rentrer dans le pays de Canaan. Et avant d'y rentrer, le Seigneur leur a dit, allez explorer le pays pour voir s'il est bon. Là, il y avait 40, selon les tribus, il y avait une quarantaine d'éclaireurs qui devaient y rentrer. Et le premier verset, vous pourrez le lire dans Nombre 13, il dit, allez explorer le pays que l'Éternel, que je donne au peuple d'Israël, que je donne. C'était fait, il était donné. Et les éclaireurs sont mis à discuter. Il y avait des grands, des petits, des gros, des forts qui empêchaient le peuple de rentrer, alors que Dieu avait dit, allez explorer le pays que je donne. C'était fait. Il suffisait de croire ce que Dieu avait dit. Il l'a dit, ben allons-y. Il y a des géants, mais ils seront rabaissés. David l'a fait avec Goliath, alors on pouvait faire à quelque temps avant. Non. C'est la parole de Dieu. C'est la seule autorité que Dieu nous donne. Et si on n'y est pas soumis, on ne le connaîtra pas. On va avoir ce qu'on appelle deux vies. La vie avec lui, une vie angélique, purement cérébrale, dans des nuages, et la vie de tous les jours. Refusons d'avoir deux vies. Gardons celle qu'il nous a donnée avec lui. Et qui en nous, à travers nous et pour les autres, peut triompher de toutes choses. De toutes choses. C'est comme deux robinets. Il y a l'ancien robinet de notre vie naturelle, qui est toujours là. On peut s'en servir autant qu'on veut. Et le nouveau robinet, c'est celui de la dépendance avec lui, où on puise en lui nos sources, nos ressources. On lui demande conseil, il répond, et il nous conduit dans le trajet qu'il a pour vous. Quelle joie d'entrer dans l'itinéraire précis qu'il a pour vous. Il en a un. Un seul. C'est le sien. C'est le choix qu'il nous reste à nous de croire ce qu'il dit, de mettre en application et de croire. Qu'il honore de la confiance, qu'il honore Dieu. Vous savez que la seule raison qu'on a d'aimer Dieu, c'est d'être sûr qu'il nous aime. C'est la seule. Toutes les autres disparaissent. Mais si on lui fait le choix d'obéir à sa parole, Dieu est réellement heureux. C'est le choix de la confiance. Cette confiance, déjà, elle rend heureux. Je suis médecin, vous savez, je vois que j'ai des patients qui ne sont pas forcément chrétiens ni croyants, mais quand ils font une confiance totale, ils sont bénis dans leur confiance. Quand vous avez des patients au bloc, et puis qui disent, ben, je dis, vous n'avez pas peur d'être endormi? Mais non, docteur, on n'a pas peur, on vous fait totalement confiance. Mais ils sont bénis dans leur confiance. Alors que d'autres, souvent des chrétiens, qui sont dans le bureau de consultation, on donne un médicament, ils gardent déjà les effets secondaires. Est-ce que ça va faire du bien? Je dis, c'est pas la peine, vous rendez compte. Puis en plus, des chrétiens. Hein. Il ne faut pas laisser Dieu en salle d'attente. Non? Quand vous avez un problème physique, de santé, le premier médecin à qui consulter, en plus il est gratuit, le premier, c'est lui. Un mal de tête, un mal de dents, Seigneur, ou bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Seigneur, tu veux bien me libérer ou bien aller voir tel ou tel médecin? Et on dit, Seigneur, mets dans la bouche de ce médecin ta réponse à toi. Le médecin, il va répondre. En toute simplicité, il ne va même pas savoir ça, lui. Mais vous le saurez, puis Seigneur aussi. La marche avec quelqu'un, c'est une marche. C'est une marche concrète, effective. acceptons les paroles du royaume et la parole de foi. La foi, c'est une mise en pratique de ce qu'on croit, de ce qu'on prétend croire peut-être, mais tout dans l'application, tout simplement. Plus j'avance dans la vie, plus je vois que Dieu est simple, d'une simplicité confondante. On écrit des livres entiers sur un seul verset, mais il faut l'appliquer. Appliquons-le. Et puis à ce moment-là, la route s'ouvre devant nous. Dieu se révèle, il a préparé en secret des choses pour ceux qu'il aime. Soyons ceux-là. On va prier ensemble. Seigneur, merci encore de nous rappeler que la foi est une obéissance du cœur. Seigneur, tu as dit cette chose, tu l'as fait. Je la crois, tu l'accompliras. Elle sera peut-être différée, mais elle s'accomplira en son temps. Attends-le, comme dit Habacuc. Seigneur, merci de tester nos cœurs, de tester notre foi, de l'affermir. Permets que la parole que tu nous donnes ne retombe pas, mais qu'elle nous amène à obéir à cette confiance. Que tu bénis toujours la confiance de la foi, Seigneur, qui honore ton cœur, qui honore ton amour de Père et qui nous attache à toi. Et nous te remercions encore ensemble, en ton nom. Amen.